Voilà, on va accueillir comme il se doit dans un premier temps les invités du jour. Michel, bonjour, Michel Favre, et bienvenue chez vous, 101e chronique.
Bonjour Joël.
Voilà, donc on va faire un petit tour des invités, façon de parler, avant que vous lanciez dans la chronique, et puis chaque invité aura l'occasion de parler de leur association respective et des Nuits des Étoiles. On a le plaisir de retrouver Serge Gattadour, c'est une première pour vous ici à Audio Radio, mais on est ravis de vous retrouver, donc bonjour, bienvenue.
Bonjour Joël.
Votre association astronomique Vega de l'Allier. J'ai pas écorché le.
C'est cela, on est sur la commune de Vers, un observatoire ouvert au tout public, tous les samedis soirs.
Voilà, puis Corinne, désolé, j'ai pas été galant, j'aurais dû commencer par vous. Corinne, il y a la présidente de l'association AG33, donc également bonjour et bienvenue Corinne.
Bonjour Joël.
Voilà, donc là également, je sais pas si vous voulez dire d'entrée de mots, on aura le temps de redire quelques mots sur l'association et puis sur le programme, programme des Nuits des Étoiles. Donc on va voir plein de choses.
Après.
Voilà, en tout cas, merci à tous les trois. Michel, alors juste avant la chronique, je ne sais pas si vous voulez dire deux mots avant la chronique ou on se lance directement sur la chronique. Allez, on se met dans l'ambiance et on attaque, vous attaquez votre 101e chronique.
La Terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb qui découvrons des terres nouvelles qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part, et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Allez, c'est parti pour votre 101e chronique à Astro Michel. Et pour ouvrir cette chronique, vous allez d'abord aborder l'actualité, bien sûr, et notamment tout de suite en retour sur les dernières actus aérospatiales du mois de juillet, qui sont nombreuses.
Voilà, comme notre dernière chronique était pile la 100e, nous l'avons entièrement consacrée à cet anniversaire et au projet de planétarium de la ville de Talence. Du coup, je n'ai pas pu annoncer les différents lancements qui devaient intervenir en juillet, et comme ils sont importants, je vais revenir dessus maintenant. En commençant par le tir du télescope européen Euclide de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, le 1er juillet par une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Cap Canaveral en Floride. Il est actuellement en route pour sa position de travail, le point de Lagrange L2, situé à environ 1,5 million de kilomètres de nous, comme le JWST. Ces cinq points sont des situations particulières où l'attraction du Soleil et de la Terre s'équilibrent, ce qui permet d'y rester dans une position stable sans dépenser de carburant ou presque. Le deuxième est situé derrière la Terre par rapport au Soleil, ce qui permet une grande stabilité thermique aussi. Il devrait l'atteindre dans quelques jours, mais il ne doit commencer sa mission que deux mois plus tard, le temps de tester et régler tous ses instruments. Alors que dans la course à la Lune, on observe une vraie compétition entre USA et Chine, dans le domaine scientifique et avec l'Europe, il existe plutôt une complémentarité. Les télescopes spatiaux américains comme Hubble ou le JWST sont destinés à l'observation fine des objets qui nous entourent pour mieux les comprendre, notamment les galaxies, les zones de formation d'étoiles, les exoplanètes, etc. Alors que l'ESA s'est spécialisé dans des sondes conçues pour compiler d'énormes catalogues astrométriques, c'est-à-dire de la position précise des objets dans l'univers et de leurs principales caractéristiques grâce à la spectroscopie, c'est-à-dire la décomposition de leur lumière dans différentes longueurs d'onde, ce qui permet de connaître leur vitesse et leur sens de déplacement, leur température et leur composition. Mais à très grande échelle, puisqu'on prévoit de cataloguer des milliards d'objets. La sonde Gaïa, lancée en décembre 2013, s'intéresse aux étoiles de notre galaxie, la Voie lactée, et son dernier catalogue publié en juin 2022 référence près de 2 milliards d'étoiles. Par comparaison, la mission précédente, Hipparcos, aussi de l'ESA, n'en avait catalogué que 118 000 avec précision et environ 1 million avec une précision un peu inférieure. Donc avec Gaïa, on a fait un saut quantitatif de près de 2 000 fois. Avec de si grandes masses de données, on peut révéler certains phénomènes, comme la rotation des bras de notre galaxie, ou remarquer que certains groupes d'étoiles ne se déplacent pas comme leurs voisines, ce qui peut indiquer qu'elles proviennent d'une petite galaxie que la Voie lactée a absorbée et qui se fond lentement dans la structure globale. En observant régulièrement les mêmes étoiles durant des mois ou des années, Gaïa peut montrer que certaines ont des luminosités qui varient, soit que ce soit de vraies étoiles variables, soit parce qu'un objet s'interpose entre elles et nous, ce qui peut être une exoplanète orbitant autour de l'étoile ou plus près de nous, un astéroïde ou une comète du système solaire qui est passé par chance devant l'étoile.
Et Euclide, alors Michel, il s'intéresse aussi aux étoiles?
Non, Euclide va faire le même genre de travail en cartographiant et caractérisant des milliards d'objets, mais pas des étoiles, des galaxies bien plus lointaines. Sur une immense région du ciel, bien sûr loin de la Voie lactée qui limite la portée de notre vision, pendant les 6 ans prévus pour sa mission, Euclide doit cartographier environ 1,5 milliard de galaxies, ce qui devrait nous donner un modèle plus précis de la structure de l'univers à grande échelle, en confrontant la théorie du Big Bang et de la relativité générale à la réalité des observations. Et comme dans l'univers, plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé, cela pourra mettre en évidence aussi son évolution, et notamment sous l'effet de deux entités encore mystérieuses aujourd'hui, la matière noire et l'énergie sombre. Pour expliquer tout ça, il faudrait plus de temps, et je pense que la mission Euclide fera l'objet d'un thème du mois cet automne, quand il aura commencé réellement à observer. Il est à peu près gros comme un minibus, pesait environ 2 tonnes au décollage, avec son grand télescope de 1,20 m de diamètre, la moitié de celui de Hubble. À noter la performance du télescope terrestre de 3,60 m de diamètre CFHT, c'est-à-dire l'observatoire Canada-France-Hawaï, situé près du sommet du Mauna Kea sur l'île d'Hawaï. Le 12 juillet, il a réussi à photographier Euclide se déplaçant rapidement par rapport au fond étoilé, alors que celui-ci se trouvait à 920 000 km de la Terre. On peut trouver ces images facilement, par exemple sur le site de Ciel et Espace. Je rappelle qu'Euclide a été victime de la guerre en Ukraine, car il était prévu qu'il soit lancé en mars par une fusée Soyouz, mais l'arrêt brutal de la coopération spatiale avec la Russie, excepté pour l'ISS, l'a privé de lanceur. Un temps, on avait imaginé le lancer avec la nouvelle fusée européenne Ariane 6, mais comme elle est en retard sur son programme, comme on va le voir juste après, la solution de repli a été de solliciter la société privée SpaceX d'Elon Musk pour utiliser un de ses Falcon 9.
Et encore une actu de l'Agence spatiale européenne avec le décollage d'une fusée Ariane 5 depuis la base de Kourou, c'était le 6 juillet dernier.
Oui, et ce n'était pas n'importe quel lancement, car c'était le dernier de cette fusée. Et je dirais, comme d'habitude, tellement ce lanceur est fiable, le tir a parfaitement réussi en plaçant les 2 satellites qu'elle transportait sur une trajectoire parfaite. Syracuse 4B, un satellite de communication militaire français, donc autant dire qu'on n'a pas beaucoup de détails à son sujet, sauf qu'il devait rejoindre l'orbite géostationnaire. Et H2SAT, ou Heinrich Hertz, un satellite de communication allemand aussi destiné à l'orbite géostationnaire. Maintenant, on attend la remplaçante de ce lanceur, Ariane 6, qui en raison de différents retards techniques n'a pas encore volé, alors que son ancêtre est déjà mis à la retraite. En octobre dernier, l'ESA annonçait son premier tir d'essai pour la fin de cette année, mais il n'est pas impossible que son planning glisse un peu jusqu'au début de l'année prochaine. Les missions spatiales sont rarement en avance. En attendant sa mise en service, l'Europe est privée de son lanceur le plus performant.
Alors pour finir, nous allons nous tourner du côté de l'Orient.
En effet, nous parlons beaucoup des missions américaines, européennes et russes, mais il ne faudrait pas oublier les nations spatiales émergentes du côté de l'Asie, avec bien entendu au premier plan la Chine, qui challenge de plus en plus les États-Unis pour les missions martiennes et les futures missions habitées à destination de la Lune. Mais il y a aussi l'Inde, avec un ambitieux programme spatial et ses propres lanceurs et sondes, développés par son agence spatiale ISRO pour Indian Space Research Organization, qui se distingue souvent par les solutions plus économiques qu'elle adopte par rapport aux agences américaines, russes ou chinoises. Parmi ces différents programmes, il y en a un d'exploration de la Lune par des sondes autonomes. Il est baptisé Chandrayaan, qu'on pourrait traduire en français par lancement lunaire. La première, Chandrayaan 1, a été lancée en octobre 2008 et visait à mettre un engin en orbite assez basse, environ 100 km, autour de la Lune, mission globalement réussie, même si elle a dû être abandonnée prématurément après seulement 9 mois, suite à des dysfonctionnements. Mais l'Inde souhaite rejoindre le club très fermé des nations qui ont réussi à poser un engin en douceur à la surface de notre satellite naturel, et qui ne compte à ce jour que 3 membres, les USA, la Russie et la Chine. C'était l'objectif de Chandrayaan 2, lancé en juillet 2019, et qui était composé d'un orbiteur qui s'est bien mis en orbite à 100 km au-dessus de la surface lunaire, comme prévu, et un atterrisseur d'environ une tonne et demie qui s'est crashé le 6 septembre suivant en descendant bien trop vite vers le sol. Mais l'Inde n'a pas renoncé à cet objectif et c'est Chandrayaan 3 qui a été lancé le 14 juillet dernier. Son atterrisseur de 1,5 tonne comprend un petit rover de 26 kg, inspiré de la mission martienne Pathfinder de la NASA en 1997. Il doit se poser en douceur à la fin août. Si tout va bien, il restera en fonctionnement pendant 14 jours, soit une journée lunaire, car il dépend de ses panneaux solaires pour son alimentation électrique. Il ne peut sans doute pas survivre à la longue nuit lunaire, de 14 jours aussi, où la température descend vers moins 180 degrés. On en dira un peu plus la prochaine fois s'il réussit son alunissage en douceur.
Et Michel, on va enfin jusqu'au Japon.
Oui, avec la sonde Bepi Colombo, conjointe de l'ESA avec la JAXA, l'agence spatiale japonaise. Lancée en octobre 2018, l'ensemble voyage à destination de Mercure, qu'il doit atteindre en décembre 2025, où ses deux composants se sépareront. L'orbiteur MMO de l'ESA, qui doit se placer sur une orbite elliptique assez longue autour de la planète, alors que l'orbiteur japonais MPO de la JAXA adoptera une trajectoire beaucoup plus proche. L'étude de Mercure est importante, car c'est une planète du système solaire assez mal connue, car on y a envoyé peu de missions spatiales. Mariner 10 de la NASA en 1974, puis Messenger en orbite autour de Mercure depuis 2011. Comme vous l'avez constaté, ce voyage est plutôt long, car on en est déjà à presque 4 ans depuis le lancement, et il en reste encore 2,5. Pourtant, Mercure n'est pas si loin de la Terre, comparé à Jupiter, par exemple. L'explication est qu'il est difficile d'aller se placer autour d'une si petite planète, alors qu'on s'approche beaucoup du Soleil à l'attraction énorme. Son trajet est donc tout sauf droit, puisqu'il utilise l'effet de fronde gravitationnelle, en passant très près de planètes pour se dévier, s'accélérer ou se ralentir. Bepi Colombo se livre donc à une sorte de billard spatial en survolant successivement la Terre, Vénus et Mercure. En commençant par la Terre en avril 2020, puis deux fois Vénus en octobre 2020 et août 2021. Ensuite, c'était le tour de Mercure pour adopter petit à petit une trajectoire plus proche de la planète. Le premier survol en octobre 2021, puis en juin 2022. Et je vous en parle car son troisième survol de Mercure s'est déroulé le 19 juin dernier. Il lui en restera deux en 2024 et un en 2025 pour terminer son approche de la planète. Bien entendu, à chaque fois que la sonde approche d'une planète, les scientifiques remettent en route ses instruments pour se rassurer sur leur bon fonctionnement et recueillir quelques données. On peut trouver quelques photos de cette approche de juin dernier à quelques centaines de kilomètres de Mercure, notamment sur le site de l'ESA. Comme nos auditeurs l'auront compris, j'ai voulu rattraper l'absence d'actu la dernière fois en me concentrant surtout sur les lancements et les missions spatiales. Il y aura encore beaucoup à dire dans le domaine de l'astronomie, notamment avec les observations du JWST ces derniers mois. Mais pour laisser le temps à nos invités de parler des nuits des étoiles, j'ai décidé de reporter ça à la prochaine fois. Cependant, je ne résiste pas à la tentation de pousser un petit coup de gueule, car comme nos auditeurs ont pu l'entendre dans les médias, une météorite serait tombée en Alsace le 6 juillet dernier, vers 4h du matin, et l'aurait rebondi sur le toit d'une maison avant de heurter une habitante de Schirmeck, dans le Bas-Rhin, la touchant au niveau des côtes. Personnellement, j'ai entendu ça raconté lors d'un repas d'anniversaire pour lequel j'étais parti en Franche-Comté la semaine dernière, avec preuve à l'appui sous forme d'un article de presse d'un journal local. Comme j'ai l'esprit mal tourné, je me suis demandé ce que cette petite dame faisait à 4h du matin sur sa terrasse. Mais comme disent les inconnus dans un sketch célèbre, ça ne nous regarde pas. Mais tout ça me semblait assez suspect, car les cas de chute vus par des témoins sont très rares. Et à ma connaissance, il n'y a jamais eu de blessés, sauf quelques têtes de bétail parfois. Il faut être particulièrement malchanceux pour qu'un caillou qui a parcouru des millions de kilomètres dans l'espace avant de se faire chahuter lors de la traversée de l'atmosphère finisse par vous tomber dessus. Une fois revenu en Dordogne, j'ai voulu en savoir plus et j'ai trouvé la réponse sur le site de la revue Ciel et Espace. C'était une fake news, comme on dit en bon français. Les explications sont fournies par Alain Collat, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de mes missions au Pic du Midi, un astronome de l'IMCCE, un service de l'Observatoire de Paris, et en charge du réseau de surveillance du ciel Fripon, qui essaie d'enregistrer toutes les rentrées atmosphériques brillantes avec son réseau national de plus de 100 caméras automatiques, le plus grand du monde. Et voilà le verdict. La vitesse d'entrée d'un caillou dans l'atmosphère est énorme, et malgré le freinage du haut frottement sur l'air, elle est encore très grande en arrivant au sol, un peu comme un obus de canon. Donc si c'était le cas du morceau qui était retrouvé, qui fait dans les 100 grammes, il n'aurait pas pu rebondir sur le toit, mais l'aurait tout simplement transpercé, ainsi que tous les planchers dessous pour finir sa course au sous-sol, comme on l'a déjà constaté lors d'autres chutes. Par ailleurs, Alain Collat signale que les photos du spécimen ne ressemblent pas du tout à celles d'une météorite, car sa surface est rugueuse, criblée de petits trous qui font penser plutôt à une pierre volcanique. En raison de l'échauffement intense, dans les 3000 degrés, lors de la traversée de l'atmosphère à grande vitesse, sur les météorites se produit une fusion de surfaces qui laisse après refroidissement des surfaces plutôt lisses et douces, sans aspérité ni arêtes vives. En conclusion, je conseille à nos auditeurs de lever les yeux pendant les nuits des étoiles pour essayer de voir quelques perséides, mais ne pas trop compter voir un caillou tomber à leurs pieds ni sur leur tête, ce qui serait extrêmement dangereux.
Allez, on est toujours en direct sur de radio avec Michel Favret pour sa 101e chronique astro. Et là, Michel, vous allez aborder la deuxième partie et nous parler du ciel du mois.
Voilà, puisque nous avons des invités pour parler des nuits des étoiles, je traite exceptionnellement cette rubrique avant et non à la fin de la chronique comme nous en avons l'habitude. Comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web www.constellationzgalaxie.org pour voir les cartes du ciel. On peut pas montrer des cartes à la radio et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour août d'ici la fin de la semaine. Même si les jours ont commencé à raccourcir depuis le solstice d'été du 21 juin, nous sommes toujours dans une période moins favorable pour les observateurs du ciel nocturne, avec un soleil qui se couche en ce moment vers 21h30 et la nuit qui n'arrive que vers 23h, et même presque minuit si on attend un ciel bien noir. Fin août, ce sera pratiquement une heure plus tôt, avec le coucher vers 20h30 et la nuit vers 21h45. Pour le week-end des nuits des étoiles, la nuit arrivera vers 22h30. Et malheureusement pour les organisateurs d'observation nocturne, il n'y aura ni lune ni planète à observer pendant le crépuscule, mais ils auront toujours de quoi occuper les participants avec d'autres animations ou tout simplement en expliquant la structure et le fonctionnement des lunettes et télescopes. En cette fin juillet, comme nous sommes en été depuis environ un mois, au début de nuit, ce sont les constellations typiques de la saison qui occupent la plus grande partie du ciel, même si quelques-unes du ciel de printemps sont encore visibles vers l'ouest, comme le Lion en train de se coucher, le Bouvier et la Vierge, qu'on peut situer avec leurs étoiles les plus brillantes, qu'on trouve en prolongeant l'arc de la queue de la Casserole, la partie la plus brillante de la Grande Ourse. D'abord Arcturus du Bouvier, puis plus loin Spica de la Vierge. Au sud-est, on voit apparaître dès le crépuscule les trois étoiles brillantes qui forment le triangle de l'été, Vega la plus haute, Deneb la plus à l'est et Altair la plus basse, permettant de situer leurs constellations respectives de la Lyre, du Cygne et de l'Aigle. Si le ciel est assez noir, on pourra distinguer le long du Cygne et de l'Aigle le ruban laiteux de la Voie lactée, incliné à peu près à 45 degrés, et qui nous conduit vers le sud à deux autres constellations bien reconnaissables, du Sagittaire et du Scorpion. À l'est, ce sont des constellations de l'automne qui se lèvent, notamment Pégase, bien reconnaissable à son grand carré, et dans le prolongement Andromède, dans laquelle on peut distinguer l'objet le plus lointain visible à l'œil nu, la grande galaxie M31, à quand même 2,5 millions d'années-lumière de nous, que les astronomes ne manqueront pas de vous montrer au télescope durant les nuits des étoiles, tant elle est grande et lumineuse. Ce sera un peu une exception, car le ciel d'été est surtout favorable à l'observation d'amas d'étoiles et de nébuleuses, c'est-à-dire d'immenses nuages de gaz, qui peuplent la Voie lactée. Notre galaxie est tellement présente dans le ciel qu'elle limite la profondeur de notre regard pour atteindre des objets plus lointains comme les autres galaxies. À la fin du mois d'août, avec la nuit qui survient plus tôt, la situation sera analogue en début de nuit, sauf que le Lion sera déjà couché et la Vierge pas loin de l'être. Les constellations d'été, le fameux triangle plus haut dans le ciel, avec la brillante Vega presque au zénith, c'est-à-dire au-dessus de notre tête, et les constellations d'automne plus hautes à l'est. Côté planète, comme je l'ai dit à propos des nuits des étoiles, nous ne sommes pas gâtés le soir, car Vénus a quitté le ciel du crépuscule pour revenir à l'aube vers la fin août. En ce moment, il y a bien Mercure et Mars à l'ouest, mais trop bas pour être observés dans de bonnes conditions. Il faut être patient pour voir se lever Saturne vers 23h, puis Jupiter vers 1h30. Mais il vaut mieux attendre 2h de plus pour les observer quand ils seront plus hauts, vers le sud-est. À la fin du mois d'août, ils se lèveront respectivement vers 20h30 et 23h, ce qui rendra leur observation plus facile en soirée. Pour les nuits des étoiles, ce sera vers 22h pour Saturne, donc on devrait pouvoir admirer ses anneaux au télescope vers minuit. Mais pour Jupiter et ses satellites, les plus courageux devront patienter bien après 1h du matin. Comme chaque mois, la Lune s'invitera près de ses planètes en produisant des conjonctions. Un peu après 23h, le jeudi 3 août, la grosse lune gibbeuse se lèvera proche de Saturne. Puis le mardi 8, ce sera le dernier quartier près de Jupiter. Mais l'ensemble ne sera visible qu'à partir de 1h du matin, donc plus facile à observer à l'aube. Puis il faudra patienter jusqu'en septembre, puisqu'il n'y a plus d'autres planètes visibles. Côté étoiles filantes, Il ne serait pas étonnant d'en voir assez facilement, car c'est la saison des fameuses Perséides, qui d'ailleurs donnait à l'origine le nom de « Nuit des étoiles filantes » à l'opération nationale de l'AFA lors de sa création. Pour en voir, il faut patienter sous le ciel étoilé, plutôt sans lune, en embrassant du regard la plus grande partie du ciel, par exemple allongé sur un relax ou directement sur la pelouse, ce qui peut être agréable pour se rafraîchir après une torride journée estivale. On peut parier qu'elles seront nombreuses à rayer le ciel pendant les nuits des étoiles, car cette année, leur date coïncide avec leur maximum d'activité, prévue dans la nuit du 12 au 13, plutôt après minuit. Cela leur vaut d'ailleurs le surnom de l'arme de Saint-Laurent, puisque la fête de ce saint chrétien est le 12. Pour être complet sur les observations possibles lors des nuits des étoiles, on peut aussi regarder du côté des satellites artificiels, et notamment le plus brillant, l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Malheureusement, si elle est encore bien visible en ce moment, entre 22h et 23h30 selon les soirs, cela se termine le 1er août, donc on ne la verra pas traverser le ciel lors des nuits des étoiles. Par contre, la station spatiale chinoise, Tianhe, nettement moins lumineuse que l'ISS, se montrera le vendredi 11 vers 23h, le samedi 12 vers 22h, sans doute difficilement visible dans le crépuscule, et le dimanche 13 un peu après 22h30. Et peut-être qu'un train de satellite Starlink de SpaceX se montrera, puisqu'un lancement est prévu le 28 juillet, mais il faut attendre son tir pour pouvoir prévoir ses passages dans le ciel.
Allez, toujours en direct sur Odo Radio, avec Michel Favré pour sa chronique astro, la 101e. Et là, Michel, vous allez aborder la troisième partie de cette chronique, voilà, autour du sujet, bien sûr, les Nuits des Étoiles 2023.
Alors, tout le monde connaît probablement cette manifestation nationale très populaire qui existe depuis 1991 à l'initiative de l'AFA, l'Association Française d'Astronomie, fédération regroupant la plupart des clubs astronomie de France. Les plus anciens se souviennent peut-être des premières éditions qui donnaient lieu à toute une soirée d'astronomie sur Antenne 2 à l'époque, avec des intervenants prestigieux comme par exemple Hubert Reeves. Cette période dorée est bien révolue puisque France Télévisions a cessé son partenariat en 2003. Il y aura tout de même une journée spéciale dédiée aux Nuits des Étoiles sur Arte le samedi 12, avec des documentaires sur des thèmes concernant l'espace, qui commencent dès 11h30 avec l'histoire du télescope spatial Hubble, et notamment en prime time, comme on dit en bon français, l'Odyssée interstellaire, une série d'anticipations scientifiques, et encore d'autres jusqu'à plus de 2h du matin. Mais bien sûr, pour ceux de la soirée, je conseille plutôt de les enregistrer, ou de les regarder ultérieurement en replay, comme on dit, sur le site de la chaîne, et de plutôt sortir vers un des sites où seront proposées des observations du ciel. Cette année, 33e édition, le thème choisi par l'AFA est « Les poussières célestes », pour rappeler le rôle crucial dans la formation des étoiles au sein des nébuleuses, puis des planètes dans le disque rotation autour des jeunes étoiles, jusqu'aux petits résidus qui illuminent notre ciel quand une étoile filante traverse notre atmosphère, notamment les Perséides en été. Mais bien sûr, les organisateurs des manifestations sont libres de parler de ce sujet ou d'autres selon leur choix. Les Nuits des Étoiles sont programmées du vendredi 11 au dimanche 13 août. Et pour donner une idée de l'importance de cette opération nationale, on peut rappeler qu'en 2022, il y a eu plus de 500 manifestations proposées un peu partout en France et qu'elles ont attiré plus de 180 000 participants selon les organisateurs. Pour avoir le détail des manifestations, les dates et les lieux, le mieux est de consulter le site en ligne de l'AFA, www.afastronomie.fr, où la page d'accueil affiche une carte indiquant les animations qui auront lieu partout en France, sur laquelle on peut zoomer ou utiliser le bouton « Rechercher une animation » pour les filtrer selon différents critères, par exemple le département. Pour ce qui concerne la Gironde et surtout la région bordelaise, nous allons en parler maintenant plus en détail avec nos invités.
Allez, merci déjà pour ce beau travail de passionné, certes, mais de travail pour la chronique, Michel. Alors, on va se tourner vers nos invités, bien sûr, et puis vous reprenez façon de parler, la main, le micro en l'occurrence, quand vous voulez. Alors Corinne, AG33, juste en quelques mots, rappelez, c'est chaque fois, il faut le rappeler en quelques mots, ce que vous réalisez au sein de l'association tout le long de l'année, parce que chaque fois, on ne sait pas qui c'est qui nous écoute à un instant T, et puis on va mettre en avant l'actualité, et voilà ce que vous avez prévu pour ces prochains jours. Alors, en quelques mots, AG33.
Alors AG33, c'est une association d'astronomes amateurs plutôt avertis, puisque nous réalisons des initiations gratuitement au site du mémorial de la ferme de Richemont, à condition que les personnes veuillent bien venir nous rejoindre sous le ciel étoilé. Notre association a été montée il y a maintenant 13 ans, uniquement pour faire de l'animation. Et justement, c'était à la veille des Nuits Étoiles, puisque G33 a vu le jour en juin, fin juin 2010. Voilà, à l'initiative des Nuits des Étoiles qui se préparaient et dont il fallait participer. Donc voilà, on est une quarantaine de passionnés et notre idée, c'est vraiment de transmettre la passion de l'astronomie et aussi de se faire plaisir par derrière, hein, en observant et en étudiant le ciel, les objets célestes, etc. On se donne les moyens, on a acheté un spectroscope. Là, on est parti sur du Solex. Bon, enfin, c'est des appareils qui permettent une étude plus approfondie.
Qui ont un coût également, certains, bien
oui.
sûr.
Bien sûr, mais
non,
bon,
c'est bien de le dire, parce que la passion, la transmission également, c'est super de pouvoir vulgariser, voilà, pour les jeunes, les moins jeunes, mais ça a quand même un coût, hein, si on veut de la qualité.
C'est un coût, mais je dirais qu'en quelques années, le coût s'est bien amoindri quand même. Bon. Hein. On arrive à obtenir des... Moi, je me rappelle, quand j'avais 20 ans, pour obtenir un télescope, il fallait économiser plusieurs mois, hein, plusieurs salaires. Hein. Là, aujourd'hui, on arrive quand même sur un salaire à se faire bien plaisir quand même. Et donc, voilà, non, on se donne les moyens d'acheter le matériel qu'il nous faut.
C'est important, on le disait, là on va faire juste une petite parenthèse. Souvent on le voit dans des catalogues de jouets, il y a des appareils où on se dit pour les enfants c'est sympa, mais je crois qu'il faut fuir.
Effectivement,
c'est une histoire de moyens de plein de choses.
On a un magasin sur Bordeaux, il faut en profiter parce que les magasins sont assez rares en France. Astronomie Espace Optique, dont Joël est déjà venu
oui,
ici.
Oui, il est venu, tout à fait.
Voilà, et il ne faut pas hésiter à aller les voir, même si vous n'avez pas d'idée de ce que vous allez acheter, ils sont de très bons conseils, donc n'hésitez pas à aller voir. Et il faut bien dire aussi que pour finir sur AG33, nous n'avons pas de terrain fixe. Hein. On n'est pas soumis, on n'a pas de salle, on n'a pas de coupole, et ça allège bien la note quand même.
Voilà, alors avant que vous apportiez les infos sur votre participation sur l'Une des Étoiles, Michel,
oui,
j'ai le bras qui se lève.
À propos du matériel et des télescopes, c'est vrai que le matériel astronomique est quand même relativement cher, hein. C'est pas un loisir très, très bon marché. Et d'où l'intérêt pour le public qui s'intéresse au ciel de venir lorsque les clubs d'astronomie proposent des soirées publiques où on peut venir regarder dans les télescopes du club. Ça permet de se faire une idée plus juste de ce qu'on voit dans un télescope parce qu'on se fait souvent des idées fausses à partir des photos qu'on voit dans les magazines ou dans les bouquins. Et puis, comme vous le disiez, Joël, il faut surtout pas acheter des jouets qui sont bien plus difficiles et dans lesquels à utiliser que nos vrais télescopes et dans lesquels on voit quasiment rien, même nous. Et donc, il vaut mieux approcher un club astro, voir avec eux ce qu'on veut faire, parce qu'en plus, les télescopes sont pas tout à fait adaptés de la même façon suivant qu'on s'intéresse aux planètes, à la Lune ou aux galaxies, aux nébuleuses, etc. Donc le mieux, c'est vraiment de se rapprocher des clubs d'astro avant d'envisager n'importe quel achat de matériel.
Voilà, mais c'est important d'en dire quelques mots. On n'a pas d'action hein, sur le magasin dont vous parlez, mais c'est vrai qu'on a eu le plaisir de le recevoir. Voilà, encore une fois, c'est passionné. Bon, certes, c'est un commerçant, mais les conseils sont gratuits néanmoins. Donc c'était bien de le préciser. Alors Corinne, sur la Nuit des Étoiles, déjà, on prépare combien de temps en amont? Parce qu'il y a un savoir-faire depuis 2010. On sait à peu près la période.
Oui, on
donc
connaît.
On s'organise comment? Parce qu'il y a du savoir-faire, il y a des lieux, des associations amis. Donc comment on s'organise?
Normalement, bon, nous on a depuis 13 ans, on a des partenaires, donc qu'on ne change pas. En tout cas pour ce qui est du...
C'est la fidélité et c'est tant mieux. Hein.
C'est le week-end officiel, voilà, c'est Cap Science, c'est Latitude Nord-Gironde et c'est l'écomusée de Marquèze. Mais il faut savoir que nous aussi on veut faire notre Nuit des Étoiles sur notre fief, donc on l'a toujours fait en décalé. Et donc, là, cette année, non, on le fera pas en décalé, puisque c'est Cap Science qui se décale avant.
Au 4 août.
Et il a fallu rajouter des dates, en fait, parce qu'on a de nouveaux partenaires, comme l'association Adichat à Villandreau. Et
qui sont pas forcément dans l'astronomie, je pense.
Non, hein, ils sont dans la culture, mais
bon, justement, donc ça permet d'avoir des passerelles, donc c'est sympa.
Exactement.
Ce genre d'initiative.
Et il y a l'UFCV du domaine de la fraise de Fargues-Saint-Hilaire aussi qui est devenu un peu notre partenaire privilégié également, et dont on fait une Nuit des Étoiles en décalé.
Voilà, donc ça fait beaucoup de rendez-vous. On peut les retrouver d'ailleurs hein, sur le
voilà, on
sur
peut
notre
les retrouver
site internet.
Sur notre site ag33.fr, mais également sur le site de l'AFA Astronomie. Donc voilà, et un peu partout, hein, sur le Facebook.
Voilà, n'hésitez pas à venir compléter, Corinne. On va s'entretenir également avec Serge. C'est une première pour vous à Audio Radio, mais vous voyez, c'est bienveillant et puis avec des gens passionnés. Alors vous représentez l'association à Astronomic Vega de la Lyre. Alors en quelques mots, l'association. Donc vous êtes sur la commune de Vert.
Tout à fait. L'association a été créée en 1985. Et a construit, nos anciens ont construit un observatoire astronomique avec une coupole en 1987. Le but de l'association, c'est de faire partager ce que l'on observe, que ce soit le matériel de l'association, donc un gros télescope type C14 dans la coupole, ou les télescopes que nos membres amènent sur le pré, qui est bordé par les vignes, en pleine campagne. Donc c'est un site en propre que l'on gère. On est ouvert tous les samedis soirs de l'année, 21h à minuit.
Donc on peut venir comme cela
tous les samedis soirs.
Un nouvel habitant, par exemple, qui se dit, tiens, ça m'intéresse, après je vais pousser la porte.
Tout à fait, on a des gens qui ont débarqué en tenue de cycliste, en VTT, en randonneur, en sortie de boîte, en rentrant de resto, en à peu près tout.
Hein. J'imagine voilà. Déjà.
Ça peut être super
entre
sympa.
Celui qui vient en vélo, bonjour, qui êtes-vous, et celui qui sort de boîte, mais enfin, c'est histoire de dire que tout le monde est bienvenu.
Tout le monde est bienvenu, il n'y a besoin d'aucune connaissance. Le but, c'est de faire partager ce que l'on peut voir. Aussi, on fait partager dans un autre cadre pour nos membres les formations, comment utiliser un télescope, comment ne pas se faire peur quand on monte un premier télescope, comment ne pas le casser et comment ne pas se dégoûter. Ce qui est quand même quelque chose d'assez récurrent quand on achète un télescope ou quand le Père Noël, des fois, offre par erreur un télescope.
Oui, voilà, je ne voulais pas dire du mal du Père Noël, mais c'était bien de dire.
J'étais concerné, donc quelque... je l'ai fait.
Non, mais ça, c'est valable dans notre domaine. Par exemple, on voit, je ne vais pas ouvrir toutes les fenêtres parce qu'il faut prioriser, bien sûr, l'actu et vos associations, mais on voit souvent, par exemple, sur les instruments de musique pour les enfants, il y a des instruments, c'est totalement injouable. Donc, ça ne sert à rien, même si ça peut faire plaisir quelques instants. Mais c'était important d'en dire quelque chose. Vous êtes combien d'adhérents?
On était 65 adhérents l'an dernier. Voilà.
Bon. Donc, ça, c'est des adhérents donc, qui participent à la vie, bien sûr, de l'association. Puis quand il y a des événements ponctuels comme la Nuit des Étoiles, bon, ça, évidemment, c'est fluctuant, c'est en fonction.
Tout à fait, c'est une bonne vingtaine. C'est aussi dans nos adhérents, il y a pas mal de personnes qui veulent apprendre à utiliser un télescope. Voilà, ils viennent
nous voir. Et puis entre passionnés, on incite souvent la sphère familiale, les proches.
Tout à fait, et Don Joël, notamment, pareil, d'Espace Optique. Nous,
bon, si nous
aiguillons du monde, voilà, bonjour Joël.
Faut pas hésiter à revenir, Joël.
Tout à fait.
Et puis vous avez
donc,
un bon
voilà,
prénom,
le but, nous, c'est faire partager ce que l'on sait de manière simple et sans aucune prise de note, hein, de manière très très pratique. Et voilà, donc aussi bien, ça permet aussi aux personnes qui n'ont pas de matériel ou dans l'objectif d'acheter un matériel, d'abord de voir tous les matériels des adhérents. Ça permet de se faire une idée sur s'ils veulent s'orienter vers de la photo, plutôt vers du planétaire, plutôt vers du ciel profond. Parce qu'on ne sait pas forcément ce que l'on va aimer dans un an.
Et puis ça peut être une passion ponctuelle, hein, c'est-à-dire tiens, la Nuit des Étoiles, c'est vrai que ce sont des beaux événements organisés par les associations, on peut venir une seule fois et pas forcément avoir envie d'acheter du matériel. Après si on a envie bien sûr de prolonger voilà, ce plaisir d'observation et autres, là vous êtes tous de bons conseils. Alors Nuit des Étoiles bien sûr, pour vous aussi, hein, c'est dans le calendrier. Comment on s'organise à un moment donné? On se dit, tiens, quand on est les dirigeants de l'association, on sait qu'il y a des événements... il faut pas passer à côté, hein, sur lesquels il faut pas passer à côté. Donc là, vraiment, la Nuit des Étoiles, c'est les nuits, hein, parce que voilà, selon les villes, les lieux, etc. Donc ça, c'est parti vraiment de... Il y en a d'autres événements, hein, mais là, comment on s'organise, là, un petit peu la même question qu'à Corinne.
Alors, notre association Vega de la Lyre, elle a pour but justement de faire... on fait 3 portes ouvertes dans l'année. Donc la Nuit des Étoiles, qui cette année, nous, on l'a calée sur le samedi 12 août. On s'est calé sur le national, on s'est toujours calé sur le national. C'est un accès gratuit, on y tient absolument, de faire partager à tout le monde, quelles que soient les origines et les possibilités de découvrir le monde du ciel nocturne. Alors que ce soit avec des télescopes, on a beaucoup parlé de télescopes jusqu'à maintenant, mais on a aussi une autre facette qui est d'observer le ciel à l'œil nu. Alors que ce soit les étoiles filantes, bien sûr, et faire un joli vœu, mais aussi...
Ça marche d'ailleurs, pardon de vous couper.
Bien sûr, tout à fait.
Je me note.
C'est excellent, c'est garanti. À Vert, c'est garanti du moins.
Ah bon, voilà. Très bien. Corinne, vous avez un droit de réponse après.
Donc, mais aussi, c'est regarder les constellations avec un laser traceur qui permet de spécialiser, qui permet de mieux indiquer qu'avec le doigt. Ça permet de voir certaines étoiles particulières, comme des étoiles doubles et colorées, comme par exemple Albireo, qui nous permettent de aussi, entre autres, s'assurer quand nos télescopes soient bien pointés. Donc on ne peut pas se tromper quand on a visé celle-là, par exemple. Et aussi de regarder les constellations avec parfois un petit peu de mythologie ou un petit peu de rêve, ou tenter de retrouver le dessin d'origine, qui parfois n'est vraiment pas simple du tout, voire même impossible, si on parle par exemple de Cassiopée. notamment, mais pas que.
J'aime bien les regards, hein, parce que entre spécialistes.
Voilà, ou les chiens de chasse, voilà, cela fait des choses assez intéressantes.
Bien sûr.
Donc voilà, nous, ça fait, on est ouvert et on fait aussi, dans ce cadre-là, donc on est un observatoire qui est ouvert toute l'année, de 21h à minuit, quelle que soit la saison, c'est plus ou moins tôt après, suivant que c'est l'hiver ou l'été, mais on est ouvert et dans ce cadre-là, la nuit des étoiles, on fera aussi buvettes, sandwichs, glaces, tout ça, pique-niquer sur site, dans l'herbe, au bord des vignes. Et regarder les étoiles filantes allongées dans le pré, chose que l'on sait très très bien faire à s'allonger.
Très bien, Michel, si vous voulez compléter, on va revenir vers vous, vous allez pouvoir compléter, là on a encore un petit peu de temps, parce que Michel, là, ben, on est heureux d'avoir bien sûr Corinne et Serge, mais il y a d'autres associations, d'autres lieux, je ne sais pas si mais vous voulez nous les préciser.
Peut-être que Corinne peut préciser les dates, parce qu'elle a parlé des partenaires tout à l'heure, mais je ne comprends pas.
Oui, ou si vous voulez compléter, bien sûr.
Oui, ben, les dates, c'est d'abord le 4 août à Florac. Donc, avec, entre autres, il n'y aura pas qu'Astronomie Gironde 33 en tant qu'observateur. Il y aura aussi la Société Astronomique de Bordeaux et la EPIC. Voilà, on sera assez nombreux, hein, donc n'hésitez pas à venir. Le 5 août, on sera dans le château même de Villandreau. Donc là, avec les remparts, on va faire ce qu'on peut, hein, mais on devrait arriver à avoir un peu de ciel.
Il y aura aussi... Après, c'est un lieu
voilà. On fera aussi des conférences, mais on l'a déjà fait, hein, bon. Il y a quelques années. Ensuite, eh bien, le week-end officiel, ce sera le 11 août au mémorial de la ferme de Richemont à Socat. Nous, ce sera au milieu des champs de maïs. Ensuite, le lendemain, on sera à Saint-Vivien de Blaye. Donc, on essaye de répondre à leurs demandes à latitude nord-gironde tous les ans. Hein. Parce que ben, c'est un peu un désert là-haut. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'associations d'astronomie. Et donc là, il y aura même un stand le ciel est à vous. C'est-à-dire, on permet de faire de l'initiation lors de cette soirée. D'habitude, on ne le fait pas parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais là, il y aura un pôle rien que réservé à ça et un animateur d'AG33 qui sera dédié à ça. Et le lendemain, quoi, le dimanche soir. On fera également la Nuit des Étoiles à l'écomusée de Marquès à Sabre. C'est un peu loin, mais franchement, le site vaut le détour, surtout que c'est toujours gratuit, hein, les Nuits des Étoiles. Donc là, on peut prendre le petit train gratuitement à partir de 21h et le retour est assuré à minuit.
Ça également, hein, ça voilà. Mène une petite plus-value. Hein.
Voilà. Et pour finir, on fera le samedi 19 août au domaine de la fraise
de Fargues, donc
de Saint-Hilaire, à l'UFCV, en compagnie donc du pôle environnement du domaine de la fraise. Et donc voilà, pareil, avec des contes, des balades forestières, et d'après que c'est très à la mode, et toujours l'observation du ciel nocturne. Sachant que nous, on rajoute en plus deux soirées d'initiation, les vendredis 18 et vendredi 25 août, en fait, quand on fait la nuit des étoiles, souvent on dit aux gens, revenez la semaine prochaine, revenez un autre soir qu'on fasse une initiation, parce que les gens arrivent, j'aimerais bien me servir mon télescope, et donc il faut ouvrir des soirées, voilà, on essaiera de faire deux soirées de plus, et pour finir, on sera à Capsieux. Parce que Capsieux, ce ne sera pas vraiment, franchement une nuit des étoiles, mais ça peut être une soirée sympa, la soirée Gargarine, où ils feront d'abord une projection du film Gargarine, je ne me rappelle plus du réalisateur, mais bon, c'est un film qui semble être connu.
Là, je ne peux pas vous aider, Corinne.
À 23h, on relance sur une observation nocturne au télescope.
Voilà, ça fait un beau mois d'août. Hein.
C'est pas mal.
Diversifié qui plus est, des lieux différents.
C'est pour ça que septembre et les vacances seront bienvenues.
Bon, je n'osais pas vous poser la question, parce que ça, c'est de l'ordre privé. Michel, n'hésitez pas à compléter. Parce que là,
oui, on invite les différents clubs de Gironde et surtout autour de l'agglomération bordelaise. Mais ils ne sont pas toujours disponibles. Donc j'ai été voir sur le site de l'AFA et je signalais qu'il y a aussi JAL Astronomie hein, qui a prévu des animations. Ils proposeront au public d'observer le ciel à Saint-Médard en JAL le vendredi 11 à partir de 21h sur le site du stand de tir à l'arc de Gajac, chemin de Cantelaude. Le lendemain samedi 12, ils seront à Martignas en JAL au parc des sports et loisirs Colette Besson. Et ça commence dès 14h30 pour l'observation du soleil et des ateliers destinés aux enfants. L'observation du ciel nocturne commencera à 21h. Et ils remettront ça le dimanche 13, car ils font la totale des dates prévues par l'AFA, à l'écocide de Bourgogne, à Pessac, à partir de 14h pour les animations enfants et l'observation du soleil, puis le soir à partir de 21h pour les observations du ciel et une conférence sur la Lune, à 22h. Et en dehors de ces clubs d'astronomie, J'ai lu qu'il y avait d'autres structures qui prévoyaient de faire des animations pour les Nuits des Étoiles. Donc, entre autres, la Maison de la Nature à Gradignan, le vendredi 11 à partir de 21h30. Et plus loin de l'agglomération bordelaise, pour ceux qui seraient partis en bord de mer ce week-end-là, deux soirées le vendredi 11 et samedi 12 à l'aérodrome de Vendée-Montalvet par l'Astronomie Club Médocain. Et d'autres du côté d'Arcachon avec le club d'astronomie Cap Sud, les soirées du vendredi 11 et du dimanche 13 à la Teste de Buche sur les sites des Archers du Bassin, précédé le dimanche matin de 10h30 à midi d'une observation du soleil à la mairie annexe du Pilat. On trouvera plus d'informations sur le site de l'AFA ou sur le site de chacun de ces clubs.
Voilà, c'était bien de donner, c'est d'être exhaustif, mais à minima d'autres dates.
Et pendant que j'y suis, je vais vous poser une question, Joël, parce qu'on a parlé des vœux qu'il fallait faire quand une étoile filante est visible dans le ciel.
Oui, parce que moi, j'ai envie d'y croire.
Alors, Joël, pourquoi on fait un vœu quand on voit tomber une étoile filante?
Je sais pas, parce que ça, on est tellement
méfiants. Je sais.
Attention, on va mettre la musique suspense. Michel, révélation.
C'est parce qu'on est des gros, comment on appelle ça? Enfin, bref, on s'intéresse.
Non. Vous pouvez aider Corinne.
Non, c'est pas ça.
Oui, j'ai pas entendu ce qu'elle dit.
Mais ça fait rire en tout cas. Le mot m'échappe, mais on s'intéresse qu'à soi. En fait, c'est ça que ça veut dire.
Égocentrique.
Ouais, non.
On dirait les jeux télévisés.
L'origine.
Oui.
C'est pas ça du tout.
Bon.
Comme beaucoup de phénomènes dans le ciel qui étaient inexplicables dans l'Antiquité, les étoiles filantes, on savait pas ce que c'était. On trouvait souvent des explications plus ou moins mythologiques, religieuses, etc. Et en fait, on pensait que les étoiles filantes étaient les âmes des morts qui repartaient dans le ciel vers les dieux. Et quand on voyait une étoile filante, on faisait un vœu pour un mort et pas pour soi. Mais maintenant, comme on veut gagner au loto, changer de bagnole, de nana ou de mec...
Non, vous aussi.
On fait un vœu pour soi. Voilà.
J'adore les exemples qu'il a pris quand on va réécouter.
Mais au départ, c'est pas ça. On devait faire un vœu...
Oui, mais après ça entre, c'est comme les expressions ou de jeter une pièce dans un puits.
Oui,
etc.
Ça rentre dans l'aspect de la rêverie, donc faut pas enlever tout non plus.
Voilà, et puis si jamais il y a une étoile filante et qu'on fait un vœu qui se réalise, mais c'était bien d'avoir quelques précisions. Là, il nous reste encore quelques minutes. Moi, j'aimerais avoir aussi la question sur les conseils, parce que là, vous, Corinne, il y a tellement d'événements, alors chacun des lieux différents, à des amplitudes horaires différentes.
J'aimerais justement détailler un peu le programme du samedi 11, du vendredi 11, parce que à 20h30 ça commence, parce que il fait pas nuit, mais il y a le comité du mémorial de la ferme de Richemont qui viendra faire l'historique de ce monument, parce que beaucoup de monde venait jusque là nous voir sur le site et nous demander mais c'est quoi ce gros monument, parce que ça fait une espèce de grande obélix. Et donc là, le comité sera présent et fera l'historique en un quart d'heure, vous parlera de ce qui s'est passé à cet endroit-là, et c'est très très intéressant. 21h15, on commencera par une première conférence, alors je pense que je vais débuter le bal, avec le système solaire, le soleil, une étoile et 8 planètes. Ce sera en deux parties, mais on verra la deuxième partie l'année prochaine, comme ça va fidéliser le client.
Une saga.
Deuxième conférence, ce sera Sandrine Vautra, membre d'AG33 aussi, qui parlera des galaxies vues par le JWST, James Webb Télescope. Et bien sûr, tout autour, les observations, lunettes, télescopes, et bien sûr l'expo photo, mais qui est autour du mémorial, à voir si possible avant qu'il fasse nuit. Et pour finir, vers 23h30, minuit, un planétarium à ciel ouvert, comme nous parlait... mon collègue.
Serge.
Comme nous parlait Serge, un planétarium à ciel ouvert avec démonstration des constellations et conte des mythologies associées.
Très bien. Je ne sais pas si vous voulez détailler un petit peu plus. Ça, il nous reste 5 minutes. Là, je vais juste aborder les conseils, mais je vais vous donner à chacun. Bien sûr, on va faire un dernier tour de table. Les conseils, parce que c'est vrai, c'est ce que j'allais dire, selon les lieux, les amplitudes. On ne sait pas quel temps il va faire non plus, mais est-ce qu'il y a quand même des conseils, parce qu'il faut que ça soit des beaux moments à partager, si possible, en famille. Donc, est-ce qu'il y a des conseils à apporter, bien sûr, à mener sa bonne humeur, etc.
Son pull aussi, et des chaussures fermées, parce que... On voit des gens arriver en short et claquettes.
Parce qu'il faut voir la journée, souvent, mais on reste dans la
Exactement.
Continuité.
Et que ce soit, je pense, au milieu des vignes, comme nous, au milieu du maïs, ça fraîchit très, très vite au coucher du soleil. Donc, n'hésitez pas à vous couvrir. Prenez un peu d'anti-moustique, quand même. Ça peut servir.
Et oui, les moustiques ne sont pas invités, mais des
et
fois...
Et surtout, effectivement, comme vous dites, venez à être bonne humeur et surtout votre curiosité.
Très bien. Serge, si vous le complétez, on va faire un dernier tour, histoire qu'on
puisse... Tout à fait. Alors, à Vert, donc, nous allons vous accueillir le samedi 12 août à partir de 15h, avec deux héloscopes pour admirer le soleil en toute sécurité. Et on y tient absolument, c'est la seule chose qui est dangereuse en astronomie, ça est tombé d'une échelle. Donc on ne le regarde jamais, quels que soient les autres matériels, sans du vrai matériel. Après, vous pourrez vous reposer, faire la sieste si vous voulez sur l'herbe. Il y aura aussi des petites animations à l'encontre des enfants, des jeunes enfants. Et en fin de soirée, donc on pourra regarder notamment Saturne en seconde partie de nuit, notamment avec notre grande Lulu que l'on appelle. C'est une vieille lunette astronomique qui a plus d'un siècle et qui est de toute beauté, qui permet de très très bien admirer les planètes, qui est vraiment spécialisée dedans. Mais aussi on pourra le regarder avec le télescope de la coupole et les autres télescopes modernes. Mais dans notre lunette historique, tout en étant, c'est vraiment une grande beauté.
Serge, comment on va clôturer le site internet, réseaux sociaux pour avoir les infos, parce que c'est bien sûr de le présenter qui plus est de vive voix, mais s'il y a des dates, pour Corinne, il y a tellement de dates que voilà, donc là également un site internet certainement pour retrouver toutes ces infos.
Tout à fait, soit sur Astronomique Vega de la Lyre, on est sur la commune de Vert, soit sur du Facebook, soit sur le site internet qui permet de reboucler dessus. Et l'on accueille des gens en dehors des samedis, des écoles primaires, un EHPAD dans ce mois-ci, des lycéens pour faire de l'astrophoto. Donc voilà, on essaie d'avoir un éventail assez grand de population et forcément des adultes qui sont les bienvenus.
Très bien, merci beaucoup Serge. Il ne faudra pas hésiter à revenir, pourquoi pas plus tard, avec des jeunes ou des moins jeunes. Ça peut être sympa aussi qu'ils viennent pas témoigner, je veux dire avec un grand T, mais exprimer le ressenti au travers de ce que chacun propose. En tout cas, merci,
merci
pour ces quelques minutes. Michel, je vous donnais les derniers mots juste à la fin, parce que comme ça vous pourrez compléter et rappeler la prochaine chronique. Corinne, est-ce que vous voulez qu'on complète?
Non, ça ira très bien, merci beaucoup.
Voilà, mais beaucoup de dates, on l'a dit, donc...
Consultez le site internet. Venez.
Très bien, en tout cas merci Corinne, une fidèle du coup de radio par intermédiaire de Michel. Alors Michel, voilà, on va vous laisser les derniers mots, comme ça si vous voulez compléter.
Je voulais juste compléter par rapport aux conseils qu'on peut donner aux participants en Nuit des Étoiles et aux observations du ciel en général. Effectivement, je suis d'accord avec Corinne par rapport à la fraîcheur des soirées que on n'anticipe pas suffisamment souvent.
C'est important de le dire, ça peut gâcher d'ailleurs la soirée, alors qu'on peut mettre dans la voiture,
mais
on peut avoir
il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est la lumière. La plaie pour l'observation astronomique, c'est la lumière. Parce que les objets qu'on va regarder, des galaxies, des nébuleuses, des choses comme ça, sont très très pâles. Donc il faut que nos yeux soient très performants pour arriver à les voir. Or malheureusement, si on fait de la lumière, les phares de voiture, des lampes de poche ou même des écrans de portable, de mobile, on n'atteindra jamais la sensibilité de l'œil pour voir correctement ce qu'il y a à voir dans un télescope. Donc il faut absolument s'interdire de faire toute lumière sur les sites d'observation. Les astronomes ont des lampes spéciales, rouges, assez faible. J'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais ça permet de ne pas avoir ce phénomène de perte de sensibilité. Mais pour les participants qui n'ont pas ce genre de matériel, il ne faut pas faire de lumière sur les sites d'observation astronomique.
Voilà, c'est important de le rappeler. Michel, prochain rendez-vous?
Alors, normalement, si c'est toujours le dernier mercredi du mois, ce sera le 30 août. D'ailleurs, je vois que j'avais marqué 30 juillet.
Oui, il y avait marqué juillet, oui. C'est pour ça, j'en profite.
C'est le 30 août.
Non, mais c'est juste une coquille. C'est
et
pas grave.
Je pense qu'on fera d'ailleurs un petit bilan des Nuits des Étoiles, parce qu'entre-temps, les organisateurs auront remonté les infos à la fin, puis on verra un peu l'ampleur de la manifestation. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on devrait reparler, je pense, de Chandrayaan 3, si elle s'est posée sur la Lune les jours précédents, ou pas d'ailleurs. Si elle s'est crachée, on le dira aussi.
Très bien. En tout cas, merci Michel. On se revoit le mois prochain. Corinne, c'est quand vous voulez, en fonction des événements. Alors, c'est vrai qu'au mois d'août, mais c'est tant mieux. C'est quand même du plaisir.
Merci de l'accueil d'Eau de Radio.
Voilà, mais bon, voilà, c'est une grande famille. Mais c'est grâce à Michel, tout cela. C'est Michel qu'il faut remercier. 101e chronique. Et Serge, vous faites partie également de la famille. Faudra pas hésiter à revenir quand vous voulez, prendre contact. Ça peut être en lien avec, bien sûr, la chronique astro. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus nous faire partager votre passion, votre enthousiasme. On le rappelle, donc Michel Favré, constellations et galaxies, .org, si on veut un petit peu plus d'infos. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est bien de le rappeler. Corinne, donc présidente d'AG33, et Serge, l'association astronomique Vega de la Lyre. Vraiment merci à tous les trois.